l'économie que c'est la richesse de la commune.
Ensemble sur Calade.
Le prof Patrick.
Et oui, c'est l'heure de retrouver le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, on avait commencé une nouvelle série la semaine dernière.
Une nouvelle saga.
Sur la politique industrielle.
Bah oui, parce que ça revient dans les conversations. Macron nous dit qu'il faut réindustrialiser la France, l'Europe dit la même chose, etc. Donc ça, on va en parler, mais semaine prochaine.
D'accord.
Pour l'instant... Parce que, voilà, la semaine dernière, on a parlé en fait de ce qu'est la politique industrielle, de comment elle a été menée après la Deuxième Guerre mondiale en France jusqu'au début des années 80. On a vu que les Allemands avaient une conception différente de la politique industrielle, fondée sur ce qu'on a appelé l'ordolibéralisme, qui fait qu'en fait, pour eux, c'est plutôt de la politique de la concurrence, c'est pas tellement de la politique industrielle. Et on a vu que cette conception s'est imposée dans l'Union européenne à partir des années 80. Donc on va, comme tu l'avais dit, reprendre à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui et voir ce qui s'est passé, voir comment est advenu et pourquoi ce déclin industriel en France. Oui, parce qu'il y a déclin. L'industrie, c'était 24% de la création de richesse du PIB français en 1980, ce n'est plus que 13%.
Okay.
L'industrie, c'était 5 millions d'emplois en 1980, ce n'est plus que 3,5 millions d'emplois.
Ouais.
Donc on va examiner les causes, deux grandes catégories de causes, les causes structurelles, les causes lourdes, et les causes conjoncturelles, les causes événementielles, on va dire. Dans les causes conjoncturelles, j'aurai deux catégories, on verra plus tard. Alors, dans les causes structurelles, première partie, je me base sur une étude lourde de l'INSEE faite sur les années 80-2007. Alors, première cause structurelle de ce déclin industriel, il y a environ un quart des emplois industriels qui ont été perdus à cause de l'externalisation. Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que l'externalisation?
Exactement.
C'est le fait qu'une entreprise confie à d'autres entreprises certains aspects de son activité. Par exemple, une entreprise industrielle va confier à une entreprise spécialisée la restauration. Mmh. Elle va confier à une entreprise spécialisée le nettoyage. Elle va confier à un cabinet d'experts comptables une partie de la comptabilité, etc., etc. Alors ça, c'est pas vraiment des emplois détruits, c'est des emplois transférés. Et ça représente 480 000 emplois sur la période que j'ai citée. Attention, ce n'est plus qu'une partie marginale des destructions d'emplois depuis 2000, c'est 1 à 5%. Donc ça, les effets sont terminés. Donc on va plutôt s'intéresser aux deux causes suivantes structurelles. Deuxième cause, les gains de productivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être plus productif, ça veut dire qu'on arrive à fabriquer plus dans un même temps. D'accord? Alors ça, c'est très bien pour la compétitivité. Sauf que si le marché ne se développe pas suffisamment, eh ben on supprime des emplois. Ah oui, il y avait besoin de 3 ouvriers pour fabriquer 10 pièces. Il n'y a plus besoin que de 2 ouvriers. Ben, on supprime un poste d'ouvrier.
Ouais.
D'accord? Et si on rajoute à ça le fait que la demande se porte de plus en plus vers les services et de moins en moins vers l'industrie, eh bien, effectivement, la demande ne progresse pas assez. Donc, il y a des destructions d'emplois. Et ça représente 29% des destructions d'emplois entre 80 et 2007. Et depuis 2000, c'est les deux tiers des destructions d'emplois qui sont dues à la productivité, qui supprime des emplois et pas assez de gains de parts de marché en contrepartie. Troisième catégorie de cause, bah les pays émergents, monsieur, dame. On échange de plus en plus avec les pays émergents, Chine, Inde, Turquie, Afrique du Sud, Brésil, etc. Et résultat, bah en fait, il y a des trucs qui sont faits par les pays émergents. Alors ça, il y a un gros débat, parce que l'INSEE dit que ça fait 13% des emplois industriels perdus entre 80 et 2007. Il y a d'autres économistes, par d'autres études, qui disent non, c'est 40%.
Ah ouais,
ils ne sont pas d'accord.
C'est une sacrée différence.
Une chose est sûre, c'est que cette cause-là, depuis 2000, est encore plus importante.
D'accord.
Donc, les gains de productivité et l'impact des pays émergents, c'est aujourd'hui la quasi-totalité des destructions d'emplois depuis 2000. Ça, c'était la première catégorie de causes. La deuxième catégorie, j'ai appelé ça les causes conjoncturelles, les événements. Je vais diviser ça en deux sous-catégories. Un, les événements politico-économiques.
Ouais.
Alors c'est par exemple le ralentissement économique très violent au début des années 90, après la première guerre du Golfe. Bon, ben, l'industrie se casse la figure. À partir de 97, l'économie mondiale redémarre, l'industrie reprend du poil de la bête, l'industrie française. Et c'est ainsi que c'est en 2000 qu'on atteint le pic de la production industrielle, on fera jamais mieux.
D'accord.
Attention, en 2000, le pic, c'est un point de pourcentage de plus qu'en 90. Le gain sur 10 ans a été ridicule. Donc ça nous dit quelque chose, ça nous dit qu'on... De façon sous-jacente, ça sent pas bon cette histoire. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, les chiffres sont de 2017, mais ça n'a pas changé fondamentalement. Donc, la production industrielle française est de 13% inférieure à celle de 2000 et de 12% inférieure à celle de 90. On est sur une chute terrible.
Ouais.
D'accord. Alors, ok, depuis 2013, il y a une politique de l'offre menée par Hollande et Macron qui a amélioré les marges bénéficiaires des entreprises industrielles. Bah, elles n'ont pas amélioré pour autant les parts de marché.
D'accord.
Ça joue pas au niveau des parts de marché. Deuxième partie des causes conjoncturelles, on va se centrer sur un truc qui s'appelle la balance commerciale. Est-ce que tu sais ce que c'est la balance commerciale?
Non, mais j'apprends pas.
T'en apprends des choses, hein.
Ouais, ouais.
La balance commerciale, c'est quand on compare les exportations de biens, les biens, des produits, hein, des chaises, des tables, des ordinateurs, des voitures, et les importations. On fait exportation moins importation. Si notre balance est excédentaire, ça veut dire qu'on exporte plus qu'on importe, donc on gagne de l'argent.
Ouais.
Si notre balance commerciale est déficitaire, ça veut dire qu'on importe plus qu'on exporte, ça veut dire qu'on perd de l'argent.
Ouais.
Alors, notre balance commerciale, elle a été excédentaire jusqu'à 2000. Bon, okay. Attention, hein, c'était un excédent qui n'était pas extraordinaire, c'était plus de 25 milliards. Les Allemands, quand ils faisaient des excédents durant ces 20 dernières années, c'est plutôt plus de 100 milliards qu'ils faisaient.
Ah oui.
On n'est pas dans le même monde. Alors nos champions à l'époque, c'était qui? C'était l'automobile, Airbus, l'agriculture, l'agroalimentaire. C'était nos champions, ils exportaient massivement. Très bien. Sauf qu'après, tout va se dégrader. Après 2000, notre balance commerciale sera déficitaire sans discontinuer. Exemple, en 2011, on est à moins 75 milliards d'euros.
Ouais.
Voilà. Alors évidemment, le prix du pétrole n'y est pas pour rien, hein, parce que la facture pétrolière a été multipliée par 2,5 à l'époque, le prix du baril de pétrole augmentait fort. Mais surtout, derrière, il y avait ces fameuses politiques que j'appelle néolibérales, fondées sur la concurrence et l'ouverture des marchés, qui sont les politiques de l'Union européenne, hein, avec l'ordolibéralisme allemand, qui ont permis l'entrée massive de produits venant de pays émergents. L'entrée de la Chine dans l'OMC a fait ça. L'électronique grand public, par exemple, a disparu. Hein, Thomson a disparu. Et les multinationales françaises vont aggraver le phénomène. Parce qu'en fait, elles décident de délocaliser leurs usines de production dans des pays où c'est pas cher, Europe de l'Est, Asie, Afrique, etc. Et ainsi, par exemple, ils ont cessé de fabriquer beaucoup de voitures en France et ils les fabriquent en Espagne, ils les fabriquent en Asie, en Afrique. Et ces voitures sont réimportées en France.
D'accord.
Et ça dégrade la balance commerciale.
Ah oui.
Donc, résultat, les points forts que j'avais cité, l'automobile, ça se dégrade. L'alimentaire, l'agroalimentaire, ça se dégrade. Ils sont petit à petit dépassés par les concurrents allemands. Alors, ça, je t'ai dit moins 75 milliards de balance commerciale, donc de déficit commercial en 2011. Ça va se calmer un peu entre 2010 et 2015. Petit à petit, on va revenir à moins 45 milliards. Tu vas me dire, c'est pas jojo non plus. Parce que le prix du pétrole baisse, en fait. Donc, c'est grâce à ça. Mais petit à petit, en fait, chacun des bastions de performance de l'industrie perd du lustre, hein, d'accord. Il n'y a que l'aéronautique qui reste puissant, il n'y a que le luxe, le grand luxe, hein, reste puissant. Tout le reste, ça perd du terrain. Donc, par exemple, entre 2015 et 2020, on est sur des déficits entre moins 50 et moins 60 milliards chaque année.
Ouais.
Et en 2021, on est même à moins 85 milliards de déficit de la balance commerciale. Voilà. Alors, conclusion de tout ça, donc, tu l'as compris, l'industrie française n'a pas cessé de reculer sous les coups de boutoir de la politique, donc de la concurrence, hein, menée par l'Union européenne, et en France également. Cette politique est fondée sur la conviction que le libre jeu de la concurrence suffit pour faire émerger des champions. D'accord ? Et qu'il n'est pas besoin que les États interviennent pour booster certains secteurs et que même c'est néfaste. Évidemment, c'est toute la philosophie néoclassique, libérale qui est derrière, contre l'intervention de l'État. Il y a la montée en puissance des émergents, comme je l'ai dit. Il y a les comportements des multinationales qui ont massivement délocalisé, qui ont contribué à ce déclin, hein, de l'industrie française et aux chiffres un peu dramatiques qu'on a. Et là, on peut vraiment considérer que malgré une dizaine d'années de politique de l'offre, oui, il y a du mieux dans les marges bénéficiaires, mais en fait, on perd du terrain. On n'a pas enrayé le déclin de l'industrie française. Alors, pour information, à la fin des années 80, il y avait un économiste français assez célèbre, hein, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Maurice Allais. C'est un économiste très libéral, hein, il était dans le camp intellectuel libéral. Pourtant, qu'est-ce qu'il disait? Fin des années 80, il voyait venir la montée en puissance des pays émergents et il préconisait quoi? Il préconisait tout simplement d'instaurer des barrières protectionnistes entre le bloc européen et l'Asie pour contrebalancer les distorsions de concurrence gigantesques au niveau des salaires, au niveau des réglementations écologiques, etc., etc. Il disait, sans ça, on ne va pas tenir. Il a eu raison, il n'a pas été écouté, l'industrie française s'est effondrée. Attention! L'industrie allemande, c'est pas tant effondré que ça. L'industrie suisse non plus, etc., etc. L'industrie française, hein.
Ouais.
Voilà. Bon, allez, pour en venir à aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui se passe? Donc, on veut réindustrialiser. Eh bien, on examinera tout ça la semaine prochaine.
Ok. Mais c'est d'accord. C'est la compétitivité, la concurrence qui nous a flingué.
Les politiques de concurrence et politiques de compétitivité, oui, en fait, que le meilleur gagne. En fait, le meilleur, c'est pas les Européens, c'est les Américains et les Asiatiques.
Ouais, ouais.
Voilà. Donc, problème hein, pour nous.
Ok, bon, faut attendre l'émergence d'un champion.
Ouais, on va voir ça.
Parfait, merci beaucoup, prof Patrick.
À plus.
Ensemble sur Calade.